C'est un très grand geste d'amitié envers des gens qui sont des parias parmi nous. Peut-être qu'on va faire la présentation de la bande dessinée ou du roman graphique de Laurent Maffre dans la foulée. Mais pendant qu'il se prépare, voilà, je crois qu'il est prêt. Qui est aussi un geste d'amitié avec aussi des parias, mais l'histoire se passe il y a 50 ans à Nanterre, dans l'arrière-cour du chantier de la Défense. Voilà. Et alors Laurent, il est là-bas à la régie, c'est de là qu'il envoie des images de son... Donc il va vous faire une présentation un peu visuelle, il a préparé un PowerPoint qui vous donne une idée de ce que c'est que demain. On dit quelques mots de demain. Il s'agit d'une fiction documentaire. C'est comme ça que Laurent Maffre présente son travail. C'est-à-dire que c'est un travail incroyablement documenté, notamment à partir d'un récit qui a été laissé par une femme qui s'appelle Monique Herbeau, qui vit toujours et qui a passé de longues années dans le bidonville de Nanterre. Et qui a fait énormément de photos, d'enregistrements sonores, etc. Donc ça, c'était une de ses sources documentaires. Mais Laurent a choisi, non pas de traiter la guerre d'Algérie, mais l'époque immédiatement consécutive à la guerre d'Algérie. L'histoire commence en 1962, avec l'arrivée donc, de Soraya et de ses deux enfants. Elle vient rejoindre son mari, qui lui vit depuis déjà quelques années, dans le bidonville. Et on est dans la partie des familles du bidonville.
Voilà. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on... Ah, si, c'est bon, ça passe, tout va bien. Bonjour. Effectivement, ce projet-là part au départ d'une envie qui est de travailler sur une partie de l'histoire de France qui est laissée dans l'ombre. La situation au début des Trente Glorieuses, celle d'une main-d'œuvre immigrée qui arrivait en France et qui s'installait sur les terrains vagues qui étaient autour de Paris. Et mon envie, en fait, sur cette bande dessinée, c'était de travailler à partir des témoignages de personnes qui avaient vécu au bidonville. Je voulais éviter de tomber dans quelque chose de didactique, et j'avais plutôt comme souhait de faire en sorte que le lecteur, au fil des pages, accompagne mes personnages et les voit évoluer et comprennent en suivant ces personnages-là la situation dans laquelle ils vivent. Donc pour ce livre-là, j'ai pu rencontrer en fait à la fois Monique Herbeau, qui était, elle n'aime pas qu'on parle d'elle en termes de militante, mais qui était une engagée du service civil international et qui arrivait sur le bidonville de la Folie, qui est un des bidonvilles de Nanterre en 1959. Et elle y est restée une douzaine d'années. Ce bidonville nommé La Folie, en fait, qui est apparu dans les années 50 à peu près, qui a duré jusqu'en 1972, c'était le plus grand bidonville de Nanterre à l'époque. C'était 10 000 habitants, pas d'eau, pas d'électricité, pas de ramassage d'ordures. Il y avait d'autres grands bidonvilles, notamment un à Champigny-sur-Marne, mais qui était un bidonville portugais, qui avait 12 000 habitants à peu près. Donc c'était des structures extrêmement grandes, avec une organisation au sein du bidonville. Et Monique, en 12 ans, en fait, a joué plusieurs rôles. Elle a aidé les gens à remplir leurs tâches administratives. Elle a aidé les enfants pour des soutiens scolaires. Elle a aidé à construire des baraques. Et elle a, entre autres, aussi archivé tout un tas de témoignages, donc aussi bien sonores que photographiques, de traces qui vont être des cartographies du bidonville, etc. Donc toute une matière extrêmement riche et qui était très peu exploitée. Et donc ça a été en fait une de mes interlocutrices privilégiées, puisque c'était intéressant pour moi d'avoir un témoignage de première main de quelqu'un qui avait vécu cette période assez trouble de l'histoire de France, et qui allait permettre de pouvoir rentrer en fait dans ce qui était de l'ordre du quotidien. Et le quotidien, c'est précisément ce qui échappe souvent à l'histoire et à l'historien, c'est-à-dire toutes ces petites pratiques, tout ce qui se joue à l'échelle de la main, à l'échelle de la survie et en fait qu'on a tendance souvent à oublier. Et l'intérêt, je pense, d'un documentaire comme celui-ci ou d'une bande dessinée, c'est de faire comprendre un certain nombre de choses par ce qui est de l'ordre de la petite échelle, en fait. Oui. Donc sur ce livre-là, j'ai pris le parti en fait de travailler sur une structure de page très classique, c'est-à-dire c'est des strips, des bandes horizontales comme ceci qui sont divisées sur un système de trames, donc soit en trois cases, soit en deux cases, soit en des fois quelques vues panoramiques, ce qui permet d'avoir un rythme relativement régulier et qui fait que l'on va suivre une famille algérienne qui le père est déjà installé comme travailleur en banlieue parisienne et sa famille vient le retrouver et s'installer au bidonville. Et c'est au moment où cette famille arrive en France qu'elle réalise en fait que le père vit dans un bidonville. Jusqu'à présent, cela a été caché aux familles et souvent en fait il y a eu cette représentation de la France comme étant une sorte d'Eldorado, d'image un peu paradisiaque. La déconvenue venait au moment de l'arrivée à la folie, donc sur les bidonvilles sur place. Donc là, au niveau du rythme, c'est un rythme relativement régulier et mon souhait était d'éviter d'avoir des récitatifs, c'est-à-dire ces sortes de petites voix off qui viennent amener d'autres informations par rapport à l'histoire. Je voulais éviter ça parce que je trouve que ça sort le lecteur de l'histoire et je préférais que les choses soient plutôt induites progressivement dans le récit. Il y a juste quelques pages comme ceci qui sont des doubles pages qui viennent par l'intermédiaire d'un petit récitatif comme il y a en haut, donc il doit y avoir trois pages comme ça dans la bande dessinée, mais reposer un certain nombre d'éléments qui me semblaient nécessaires à la bonne compréhension de l'histoire. Mais c'est en gros les seuls éléments vraiment didactiques qu'on pourra avoir dans la bande dessinée. Alors je m'arrête un tout petit peu sur cette page parce que ça c'est une vue du bidonville que j'ai fait au tout début quand je commençais à dessiner sur cette histoire. Et en fait j'avais pas encore beaucoup d'images du bidonville, j'avais même trop peu d'images, donc c'est une vue un peu fantasmatique de ce que pouvait être ce bidonville de la folie à cette époque là donc je me suis dit il y a certainement une allée principale. J'avais vu une ou deux photos avec certaines formes de lampadaires, donc je les ai réutilisées pour faire la rue au premier plan. J'avais vu qu'il y avait des échoppes qui étaient alignées sur cette rue, donc je les ai réintroduites dans le dessin. Et puis à l'arrière-plan, j'ai essayé de représenter ce que pouvait être, ça c'est la facilité du dessin, c'est de pouvoir suggérer ou représenter ce qu'était une banlieue parisienne avec un minimum d'effets. Voilà. Oui, il y a le CNIT à gauche qui date de 58, il y a quelques immeubles en construction à l'arrière. Et ce qui est assez intéressant avec le dessin, en fait, c'est que c'est toujours une interprétation, finalement, c'est toujours quelque chose qui est relativement ouvert. Et finalement, quand les personnes regardent ce dessin, même des personnes qui connaissaient très bien la situation à cette époque, je prends par exemple Bouchaïb, qui a été une des personnes qui m'a beaucoup aidé, qui était enfant à l'époque au bidonville et avec lequel nous avons eu de longues discussions. Ben regardez le dessin, il me dit « Ah oui, c'était à peu près comme ça, le bidonville, tu as raison, il y avait bien cette rue principale. » Donc moi j'étais très content qu'il y ait effectivement une rue principale comme ceci. Effectivement, elle tournait. Il me dit « Mais là-bas, qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, ça c'est une église. Il n'y avait pas d'église à cet endroit. » Puis après il me dit « Ah mais si, en fait il y avait une église. » Alors qu'en fait, moi, j'ai jamais pensé du tout que ça allait être une église, ceci. Mais c'est ce qu'il y a d'intéressant avec le dessin, c'est que les personnes y projettent aussi toute une connaissance intime, quelque chose qui leur est propre, et ils s'approprient finalement ceci, et le dessin devient une forme un peu ouverte. Ce qui permet d'avoir une lecture aussi peut-être plus... une lecture assez dynamique. Donc, il y a...
On a passé une planche où là, on était en Algérie. Et il y a aussi un aller-retour, comme dans le film de José Mira, entre ici et le là-bas.
Oui, en fait, j'ai eu recours pour cette bande dessinée à des effets de flashback qui viennent s'intercaler dans l'histoire. Parce qu'une des difficultés du... enfin, sur de la bande dessinée comme ceci, c'est parler de la routine, parler du quotidien, c'est aussi prendre le risque qu'à un moment le lecteur décroche et s'ennuie en fait. Donc il faut arriver à faire en sorte qu'il soit toujours attentif, que son attention soit toujours renouvelée. Et ce que je voulais absolument éviter, c'était de donner la scansion du temps par des dates, c'est-à-dire dire mars 1961, juin 1962, etc. Parce que je trouve que c'est des fois très artificiel et que l'on n'éprouve pas pour autant la durée. Et le principe que j'ai retenu dans la bande dessinée, c'est d'utiliser le flashback parce que ça introduit une coupure. En fait, on se retrouve dans un temps T avec les personnages et à un moment, il y a un flashback de quelques pages, 3-4 pages, qui nous permet d'éclairer une autre facette de l'histoire ou d'éclairer un peu différemment certains personnages. Et quand on revient dans le temps présent, le temps de l'histoire, eh bien, on a eu cette coupure et on a l'impression un peu de retrouver les personnages. Et du coup, ça me permettait de donner une sensation de durée, d'avoir l'impression à un moment de quitter les personnages et de les retrouver un peu plus tard, sans pour autant avoir besoin de réutiliser à chaque fois un système de dates qui pourrait venir marquer telle ou telle case ou telle page. Donc là, je vous fais défiler rapidement quelques images. Je vais peut-être avancer un tout petit peu. Alors, c'est un dessin qui est réalisé au rotring sur du calque avec une petite valeur de gris ici pour marquer certains éléments des personnages ou certains éléments du décor. Ça m'amusait de retrouver un dessin qui était à la fois assez fragile, assez léger, qui permettait de rentrer aussi bien dans des détails de personnages que de suggérer une sorte de fatras qui pouvait être celui du bidonville. Et le petit clin d'œil, c'était aussi que ce type de technique-là, c'était le type de dessin utilisé par les architectes à l'époque où on construisait les bars dans les années 50, 60, 70. C'était le dessin de plan en rotring sur calque avec des roues de gris pour les ombres. Donc il y avait ce petit jeu là-dedans. Et surtout, ça me permettait de travailler à échelle 1. L'usage du rotring, c'est un stylet à encre de Chine très fin. En fait, ça fait un trait de quelques dixièmes de millimètres. Et ça permet de travailler à échelle 1, c'est-à-dire de m'éviter des fois de trop saturer des images, au contraire de ne pas le faire assez. Donc là, toutes les pages de la bande dessinée qui est imprimée sur un format voisinant avec le format A4, ce sont des pages qui ont quasiment été dessinées à cette échelle. Et j'ai cherché l'outil qui me permettait de travailler justement à cette échelle-là. Peut-être une dernière chose sur la bande dessinée, ça a été de partir du fait que je ne connaissais pas, a priori, toutes les choses dont j'allais avoir besoin pour faire mon histoire. J'ai travaillé 2 ans et demi là-dessus, sur ce projet. Et j'ai donc cherché une manière de découper mon histoire, une manière de la rythmer, qui soit suffisamment souple pour que, même si au bout d'un an ou un an et demi, si je rencontre quelqu'un qui me fait part d'une anecdote particulière que je trouve pertinente et particulièrement intéressante, je ne m'interdise pas de l'intégrer dans mon récit. Donc c'est une sorte d'histoire un peu pas à trous, mais avec une maille suffisamment flexible qui ne conviendrait pas du tout pour une trame de roman noir où tous les éléments doivent être exactement à leur place pour que l'intrigue se déroule de la bonne manière.
Je veux dire que l'intrigue centrale, elle est très simple à partir du moment où Soraya arrive et qu'elle est profondément déçue de voir la misère qui l'attend là dans ce bidonville. Elle n'a qu'une hâte et elle fait pression sur son mari sans cesse pour aller ailleurs. Et il va se passer 3-4 ans avant qu'il puisse accéder à un logement un tout petit peu mieux. Donc la trame, elle est vraiment très simple. Et dans cette trame, il se loge un flashback sur le 17 octobre 1961, donc la grande manifestation du FLN qui va être criminellement réprimée, notamment par Papon. Donc là c'est sous les ordres de Papon, sous l'autorité. Mais il va y avoir aussi d'autres éléments comme ça de flashback qui interviennent de façon très très fluide, sans qu'il y ait forcément une chronologie. Mais l'histoire elle-même, elle est très simple. Et là, dans la vie du bidonville, on va trouver beaucoup d'éléments qu'on a approchés aussi dans le film. La vie des familles, la chaleur humaine, des fêtes, et puis tristesse aussi.
C'est vrai que par rapport au film, là, c'est aussi une économie du peu, voire du rien, des fois. Donc c'est un rapport à la boue, une crainte du feu. Une crainte, par exemple, une phrase qui a été dite dans le film sur la mère qui n'ose pas laisser ses enfants seuls. En fait, c'est une angoisse permanente, par exemple, chez ses familles, vu que tout peut s'embraser très très rapidement. Après, c'est vrai que le contexte est différent, et moi, enfin, je suis d'une génération qui n'a pas connu directement cette période-là. Mais travailler sur ce sujet, travailler avec des personnes qui l'ont vécu, soit qui ont été enfants au bidonville, soit qui avaient une trentaine d'années, ça, je le vois au départ un peu avec un regard extérieur, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ça me permet de me plonger dans l'histoire et de m'imprégner à la fois de ce que pouvaient être les voitures, c'est tout un tas d'éléments en fait sur lesquels on est obligé d'être attentif, parce que à n'importe quel moment ça peut faire décrocher le lecteur de notre case. Et puis il y a des choses qu'on peut pas faire, on ne peut pas faire un long plan où on voit quelqu'un qui est en train de, je sais pas moi, effectuer ou lire, par exemple. On ne peut pas faire 6, 7, 8 cases où une personne en train de lire un livre, je trouve ça assez ennuyeux. Ça peut très bien marcher sur du film, par exemple, mais en bande dessinée, on doit trouver aussi des manières de traiter cette séquence différemment. Ça, c'était par exemple une séquence, voilà. Les personnages vont, pour vous donner juste une idée, les personnages vont à la préfecture de Paris pour faire une demande de carte de séjour, une demande surtout de logement. Et en fait, le propre de cette demande, c'est que les gens vont arriver à 4 ou 5 heures du matin, faire la queue. À midi, les portes seront fermées, et si ils ne sont pas rentrés, ils devront revenir un nouveau jour. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que c'est aujourd'hui, hein. Et en fait, c'est un long moment d'attente, et je ne peux pas faire 10 pages en montrant des personnes qui attendent, parce qu'en fait, au bout de 2 pages, le lecteur va avoir compris, il va commencer à s'ennuyer. Donc le principe là que j'avais retenu, c'était d'accentuer la densification comme ça des cases sur une double page, et de faire en sorte que le lecteur, avant même d'avoir commencé à lire ou à regarder les images une à une, ait déjà une sorte de première impression où il sait déjà qu'il va avoir beaucoup de choses à lire dans la page. Déjà, il sait que c'est la lecture de cette double page va lui prendre plus de temps que la lecture des doubles pages précédentes. Un point un peu propre à la bande dessinée, mais si certains d'entre vous ont lu Les Éthiopiques de Corto Maltese, il y a un moment où Corto va être pris dans une avalanche de cailloux, et c'est en fait en tournant la page, Corto se retrouve avec tous ces cailloux qui dégringolent sur lui, et toute la page est construite, la double page est construite avec ces cailloux qui semblent venir d'un point supérieur de la page et débouler sur l'ensemble de la double page. De telle sorte que quand on lit l'histoire, on la lit à la fois par des doubles pages, par des sortes de premières sensations comme ça, que l'on découvre au moment où on tourne la page et on découvre la double page. On est dans l'éboulis, on est dans la chute de cailloux. Et ensuite, on peut rentrer dans les images, les lire une à une et voir comment le personnage principal arrive à se sortir de cette affaire-là. Alors pour finir peut-être là-dessus, sur le... Au cours de ce projet-là, donc, qui a été assez long, j'ai pu bénéficier de témoignages de personnes qui étaient donc enfants sur le bidonville, de exploiter aussi une partie des archives que Monique Hervault avait laissées, notamment des archives sonores, puisque en 1965, en fait, elle a appris que des reporters partaient à l'autre bout du monde avec des petits enregistreurs à bande, et elle a investi dans un appareil qui était à la pointe à l'époque, et elle a commencé à faire des interviews de ces familles qui vivaient dans le bidonville. Donc elle a fait à peu près 200 heures d'interviews qui sont stockées à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, mais qui sont encore sous support magnétique, donc qui sont très peu exploitées, d'autant plus qu'aujourd'hui on n'a plus forcément les appareils pour les lire. Non seulement avec une qualité suffisante, mais même juste pour les lire. Je sais que certaines émissions radio avaient essayé et n'y étaient pas parvenus, du moins dans les temps qu'ils avaient. Et donc, avec deux autres amis, dont un ami qui est ingénieur du son, on a voulu numériser une partie de ces enregistrements, parce que c'est une source assez formidable de pouvoir entendre des gens qui vous parlent de leur baraque des années 65 et qui vous parlent on va vous faire écouter quelques exemples des fois avec une langue parfaite. C'est assez étonnant, d'autant plus qu'on a retrouvé des enregistrements de personnes que moi j'ai rencontrées alors qu'elles avaient 50 ans, donc on a pu leur faire écouter leur propre enregistrement alors qu'elles n'en avaient que 10. Donc on a numérisé à peu près 30 heures avec le bon appareil, tout ce qui allait bien, du coup le son est impeccable, et on a exploité une petite partie de ces enregistrements là pour faire un web documentaire sur le site d'Arte, puisque la BD était coproduite par Arte. Et ce web documentaire se présente en fait sous la forme d'une grande frise dessinée. On va pouvoir peut-être la lancer.
En tout cas, il est en ligne et vous pouvez aussi y aller en sortant d'ici si vous voulez.
Donc c'est une...
Il est accessible.
Voilà, il est accessible librement pendant 10 ans au moins. Donc vous avez une grande frise dessinée qui fait 8 mètres de long, qui avance petit à petit comme ceci. Le principe est très très simple. On n'a pas voulu chercher de complexité particulière.
Comment vous faites alors, s'il n'y a pas d'électricité à la phonie?
Alors là, vous voyez, j'ai une lampe alcool.
Oui.
Et son adjoint, c'est monsieur la bougie.
Voilà. Oui, c'est difficile quand on travaille à la bougie et on ne peut pas voir bien, car il y a notre ombre qui traîne sur le cahier. Alors on ne peut pas faire le devoir à la lumière.
Il faut pas qu'en arrivant justement à 6 heures, on commence à se mettre ici. Parce qu'il y a mes frères, déjà il y a un qui vient par ici, deuxième par ici sur la table, il y a troisième comme ça, on bouscule tout ça. Oui. Et puis là, nous, on attend jusqu'à vers les... quand ils partent dormir, et puis là, on commence à écrire. Parce que sans ça, vers les 7 heures, tout ça, on pourra jamais. Surtout maintenant, vous avez vu hier, on pouvait pas travailler tellement qu'ils criaient tout ça. Oui.
Alors à ce moment-là, vous travaillez une fois qu'ils sont au lit.
Oui.
Est-ce que ça fait mal aux yeux, la bougie?
C'est vrai. Les couleurs, on voit pas tellement bien. Surtout le bleu et le vert. Bah, c'est dur à les reconnaître, hein. Les deux couleurs.
Bon, vous pouvez aller voir sur le... Là, on n'a pas l'image en même temps, mais on vous donnera le lien pour aller voir. Ça s'appelle le 127 rue de la Garenne. Et vous tapez ça sur Google et vous aurez directement accès à cette frise. Voilà.
J'aimerais que José vienne voir bien terminer. Bon, alors évidemment, ce sont deux démarches très, très différentes. L'une d'ailleurs, José a travaillé entre 2008 et 2010, mais je crois que l'histoire qu'il raconte, elle s'est passée aussi la semaine dernière. Cette semaine, lundi, j'ai entendu un campement de Rome a été déménagé Manu Militari à Vigneux. La semaine dernière, c'était à Saint-Denis, à Bobigny et à Bondy. Voilà. Donc on est dans l'actualité.
Oui, en plus, on est d'autant plus dans l'actualité que depuis que les socialistes sont arrivés au pouvoir, ça s'est accéléré en fait. Il y avait un certain nombre d'associations de solidarité avec les Roms qui avaient imaginé que les choses se calmeraient un peu et que l'hiver notamment, parce qu'on est encore en hiver quand même, on laisserait les gens un peu tranquilles et que bon, ici et là on serait comme on l'a été à l'époque des années 60, un peu tolérant quoi, faire une espèce de tolérance des terrains qui duraient 5, 10, 15 ans. Et là, c'est quelques mois, et c'est pour les gens. Ce qui est dramatique, c'est pour les enfants, notamment par rapport à leur scolarisation, parce que je pense que c'est des enfants qui ne vont pas aller à l'école du tout. Et je crois que ça, pour demain, c'est vraiment un vrai, vrai problème, parce que nous, quand on est arrivé en France, on a été à l'école, on était au bidonville, mais on était à l'école directement, quelques mois après, quoi.
Nous, alors, qui est le nous, là? Nous, les Portugais.
Oui, quand on est arrivé dans les années 60, nous qu'on est arrivé dans les années 60, voilà. Je veux dire, il n'y avait pas de. Il y avait une tolérance, on est resté sur le même terrain, le bidonville a duré 13 ans, et là, on n'a aucune tolérance, et Voilà, je... Mais c'est vraiment pour les gosses que... Parce que moi, j'ai été gosse dans les années 60. C'est vraiment pour les gosses que ça pose vraiment un vrai problème, quoi. Par rapport à leur avenir.
Alors là, ce qui est frappant dans le film, c'est l'omniprésence de la boue. Voilà, ce qu'on voit aussi en permanence dans Demain, de la boue, du froid, d'une précarité physique. Bon, ça, et puis la présence policière, quoi, qui est presque un harcèlement policier, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est difficile de parler des deux objets en même temps parce qu'ils sont vraiment très, très. Très, très divers. Je voulais juste dire d'abord que José Vieira a déjà consacré plusieurs films à l'immigration portugaise, dont il est lui-même issu. Hein. Et je voulais savoir ce qui l'avait amené à aller vers les Roms. Quoi.
Ben, moi, depuis très longtemps, un bidonville, c'est un peu. Le rapport qu'on peut avoir au bidonville, à part y avoir habité, est un peu complexe. C'est-à-dire qu'en même temps, je serais capable de vous dire que c'était très dur et qu'il faisait froid et qu'il y avait beaucoup de boue et que c'était un peu pénible et qu'on avait honte vis-à-vis des autres. Mais en même temps, je pourrais vous faire l'éloge du bidonville, quoi. C'est-à-dire que pour les enfants, quand on est gosse et quand il fait beau, l'hiver c'est un peu plus compliqué, on y passe Moi j'ai très 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 beaux souvenirs, c'est mon enfance. Donc depuis toujours, j'ai eu envie d'aller tourner dans un bidonville. Depuis que je suis réalisateur, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Alors, j'ai filmé ici et là des baraques à Cassis, à Bidonville de Tunisien. Mais je passais une journée avec eux. Et puis, j'ai tourné avec dans des petits bidonvilles de Roumains, des premiers immigrés roumains qui sont arrivés dans les années 2000. Enfin, pas les premiers, mais des gens qui sont arrivés dans les années 2000. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui se déclenchait pas. Mais moi, j'avais vraiment ce désir de retrouver cette vie-là, quoi. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est parce qu'un désir physique c'est l'enfance, quoi. Et donc, quand c'est... je voyais à Saint-Denis, en passant, qu'il y avait beaucoup de bidonvilles. Quand c'est installé un bidonville à Massy, là où ce qu'on voit au début, au milieu de cette autoroute-là, là, j'y suis allé. Il y a quelqu'un qui m'a emmené, qui est dans la salle, d'ailleurs, qui m'a emmené ce jour-là. Et qui m'a présenté quelques familles. Et moi, je pensais au départ y aller pour faire quelques plans de bidonville pour ma collection, quoi. Je faisais collection d'images de bidonville, en fait. J'étais très bien reçu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à filmer. Et là, j'ai pas décroché pendant 2 ans, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai retrouvé... d'abord, je connaissais pas du tout les Roms. J'étais, comme tout le monde, j'avais aussi des idées reçues sur les gens. Donc j'ai commencé en même temps à tourner, à comprendre ce qui se passait, à donner des coups de main aussi, parce qu'on ne peut pas être juste réalisateur à ce moment-là et se dire « Ah, mais moi, il faut que je tourne. » Voilà, il y a des choses qui se passent avec les gens. Les gens, ils ont des urgences et tout ça, mais je ne sais plus d'où je suis parti pour...
Je vous ai demandé pourquoi les Roms.
Oui, alors... Et en plus, je finissais... Au moment où j'ai commencé ce film, je finissais un film qui s'appelle Le drôle de mec, Chronique des années debout, qui est un film où j'ai cherché des archives de ce que c'était la vie quotidienne au bidonville. C'était quoi? Au bidonville, il y avait des fêtes, il y avait des gens qui vivaient au quotidien. Et en cherchant notamment Alina, mais pas seulement Alina, je ne découvre rien de spécial. Il n'y a pas de fête, par exemple. Et donc, moi, l'envie que j'avais, c'était de filmer, de montrer que, finalement, un bidonville, on dit les camps pour les Roms. Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est des bidonvilles. C'est-à-dire, un camp, c'est un truc de transit, et là, ils veulent s'installer. Les Roms qui viennent de cette région de Roumanie, c'est des gens qui sont sédentarisés depuis 5 siècles. Ils n'ont aucune envie, donc le mot camp est tout à fait inapproprié par rapport à ça. Donc, s'il y avait... des fois, je me perds, parce que je fais des trucs à tiroir. Et donc, j'avais envie vraiment de montrer que... un bidonville, c'est un village qui est en constitution. C'est-à-dire que... Il y a la fête le dimanche, il y a des gens qui sortent l'accordéon, il y a tout le bordel ambiant aussi. Autour d'un bidonville, ça pue la merde, quoi, parce que les gens vont chier à côté, quoi. Toutes ces sensations, c'est incroyable, je le retrouve tout ça. Donc je reste dedans, et puis évidemment, je ne suis pas resté que sur des trucs d'enfance. J'essaye, moi, de réfléchir à comment je peux... servir à quelque chose dans cette histoire, c'est-à-dire faire ce film. Et l'idée du film, c'est juste de changer le regard des gens. Parce qu'après 2 ans, je réfléchis quel film je vais faire. Et je me dis, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste montrer comment on vit au quotidien. Et que finalement, c'est des immigrés comme les autres, parce que ce titre même d'immigrés leur est dénié, quoi. Les gens ne veulent pas admettre que c'est des immigrés, que c'est des chercheurs de vie meilleure. D'ailleurs, c'était le premier titre qui... Ça s'appelait les chercheurs de vie meilleure. Et puis bon, le tournage a fait que ça s'appelait battre en carton pour les raisons que...
Quand même, parce que moi j'ai jeté un petit coup d'œil sur internet et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de bateau en carton, et j'en ai trouvé aucune trace historique. Alors ça demande quand même une petite précision.
Oui, moi aussi j'ai fait des recherches après avoir entendu par plusieurs personnes, hein, c'est pas les seuls qui m'ont parlé de ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement chez les Roms, qu'on retrouve au Portugal. Je l'ai trouvé dans un tournage au Portugal, cette idée qu'on se débarrasse des gens en les mettant dans des bateaux. Et c'est, comment dire, c'est de l'imaginaire populaire, quoi. Les gens sont persuadés que c'est vrai, sont persuadés, hein. Moi, au Portugal, il y a des gens qui m'ont dit, la police politique, à l'époque du fascisme, mettait les gens dans des bateaux troués, et pof, voilà. Et je leur ai dit, vous êtes sérieux, qu'est-ce que vous me racontez, là? Parce que je suis un peu au courant de ce qui s'est passé, quand même. Et les gens, oui, c'était comme ça. C'est quelque chose qui est établi. Voilà. Et moi, simplement, j'ai joué là-dessus, parce que je trouvais que par rapport à la situation en France... La métaphore était pas mal, parce qu'en fait, ils étaient en train de raconter un peu... Bon, évidemment, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a quand même des vraies souffrances. Et donc, de simplement de voir que, par rapport à la situation, le titre allait assez bien, quoi. Voilà.
Et alors, Laurent, votre précédente bande dessinée, elle était adaptée d'Albert Londres, et c'était L'Évadé, hein ?
L'homme qui s'évada.
L'homme qui s'évada, voilà, parce que je l'ai vu en espagnol aussi, c'est L'Évadé, voilà. Donc L'homme qui s'évada. Alors comment est-ce que vous êtes passé d'Albert Londres à, donc toujours dans un contexte historique, hein, puisque vous cherchez votre inspiration un petit peu dans le passé, mais dans un passé pas si lointain. Donc qu'est-ce qui vous a amené à aller aussi vous plonger dans cette matière, qui est une matière humaine et puis une matière physique, quoi, du bidonville?
C'est le... Moi, j'avais fait il y a 3-4 ans un petit voyage dans le cadre d'une manifestation littéraire qui avait lieu à Djibouti, et on était intervenu pendant une semaine dans différentes écoles de Djibouti, dont certaines qui étaient dans les bidonvilles. C'est une expérience très très courte, hein, bon, comme ça, très extérieure finalement, mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là, d'autant plus que moi je suis enseignant aussi, c'est que au milieu de cet amas de tôles et de bâches, il y avait un bâtiment qui était construit en dur, qui était neuf, c'était les écoles à chaque fois, avec les enfants qui étaient très bien habillés et qui allaient à l'école comme ceci. Et au bidonville, en fait, j'ai retrouvé un peu ça dans la manière dont les gens me racontaient leur histoire. C'était l'importance de l'école. C'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez au tout début, c'était ça me l'a à propos. C'est que les maires, en fait, essayaient de faire en sorte au maximum, par exemple, que les enfants n'aient pas de traces de boue, qu'ils fassent leurs devoirs, même si les conditions étaient absolument impossible, en fait, ce que vous pourrez écouter sur la frise. Et donc, il y avait tout un tas de petits éléments comme ceci. Alors forcément, moi, j'ai vécu que quelques heures dans un bidonville. J'ai vu 2-3 choses, et qui m'ont fait comprendre aussi que c'est en essayant de rencontrer, de trouver des témoins de premier ordre que je pouvais essayer de construire mon histoire. Et dans le premier livre que j'avais fait, qui était une adaptation des enquêtes d'Albert Londres sur le bagne, la démarche d'Albert Londres était celle-ci, c'était d'aller en Guyane, d'aller rencontrer aussi bien des prisonniers que des locaux, que des gardiens, et de permettre au lecteur, à partir d'un ensemble qui était fragmentaire, puisque c'était une série d'articles, de reconstituer, de faire en sorte que le lecteur reconstitue ce qu'était le bagne, dans toute son abomination là-dessus. Et moi, ce que je voulais absolument retrouver dans mon travail sur Demain, c'était finalement ce que j'avais appris à la lecture d'Albert Londres là-dessus.
Est-ce que le public veut se manifester, poser des questions, intervenir ? Oui.
Oui, je voulais intervenir.
Alors, Les débats ici sont enregistrés. D'ailleurs, après, on peut même les écouter sur le site de la BPI. Donc, voilà, donc micro.
Tu m'entends ? Ouais. Donc oui, je voulais vraiment féliciter. Je trouve que ce film est très beau. Il me touche énormément. Et c'est surtout, je trouve, la mise en valeur de cette solidarité, en fait. De comment, j'ai l'impression, que comment, en fait, la misère crée cette solidarité. Que, voilà, j'ai l'impression que quand on est pauvre, on est vachement plus solidaire. Et je trouve que c'est une très belle leçon de vie. Qui en plus effectivement efface tous ces préjugés si nombreux et qu'on a tous, hein, je pense aussi eu par les médias, par tout ça. Et voilà, je trouve ça très beau, je trouve ça très touchant comme film. Voilà, c'est juste une remarque.
Vous voulez réagir ? Moi, j'avais envie de poser une question peut-être moins optimiste. Est-ce que vous n'avez pas enjolivé les choses ?
Non. Très bonne question. Est-ce que quand on fait un documentaire, on fait des choix ? Oui. Oui. Par rapport à des choses, à des idées qu'on a, moi je suis un militant. Voilà. Et alors, par rapport aux peurs que les gens ils ont par exemple, les mafias qu'il peut y avoir, etc. Non, je n'ai pas vu de mafia. Elles existent, il y en a. Non, je n'ai pas vu des enfants qui viennent de Roumanie, qu'on fait venir exprès, etc. Non, je n'ai pas vu ça. Oui, je savais qu'il y avait quelques problèmes sur le bidonville, notamment de prostitution, de jeunes garçons et tout ça. Bon, je ne me vois pas très bien en train de... Je ne vois pas comment je peux aller tourner ça. Voulu montrer qui ils étaient simplement. Je veux dire, il n'y a pas de... Alors, effectivement, j'avais plus de rapports avec des gens qui parlaient un petit peu le français, qui parlaient l'anglais, par exemple, qui parlaient italien, qui parlaient espagnol. Sauf en Roumanie, où j'ai un interprète pour les entretiens. Et les entretiens, enfin, les choses sont un peu installées. Il y a un interprète, parce que là, c'est quand même se tirer une balle dans le pied que de ne pas comprendre ce qu'il est en train de se dire à ce moment-là. Mais tout le reste, non, je travaille tout seul, donc j'essaie de capter ce qui se passe. C'est une langue latine quand même, mais bon, le romani, ce n'est pas une langue latine. Donc voilà, j'essaie de capter ce qui se passe avec les moyens, avec ma... j'essaie de sentir les choses. Mais moi, je voulais montrer, parce que qu'il y a des gens, énormément, chez les Roms, qui veulent travailler, qui cherchent un boulot, et qu'ils sont dans une situation où ils n'ont pas accès à l'emploi. Que c'est très compliqué d'avoir une carte de travail, et qu'il y a des gens qui veulent travailler, qu'on n'est pas dans une situation, l'image qu'on a tous, des Roms qui font la manche dans le métro, dans la rue. Donc voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés qui, au final... Ils viennent ici avec une espérance, c'est celle de s'en sortir. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Je ne vois pas vraiment de différence entre les années 60, sauf qu'il y a moins de boulot, ça c'est évident, et qu'on est en crise, ça ne m'a pas échappé, mais qu'on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que c'est des gens, moi mes parents, mon père est venu parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Alors on me dit, ouais, mais ils ont une maison là-bas en Roumanie, ils viennent de... Et oui, nous aussi, on avait une maison là-bas. Il n'y a pas de souci là-dessus. On avait une maison, mais il n'y avait plus d'argent, quoi. Donc, tout ça mis bout à bout comme ça, c'est simplement, voilà ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là sont venus parce que l'espérance, il n'y en a plus en Roumanie. Ils n'ont rien à manger là-bas. Voilà. Il y a des gens qui cherchent du boulot. Il y a des problèmes. Parce que c'est une population qui est très précarisée. simplement, qui a été, pour juste un exemple, qui a été jusqu'en 1865, ils étaient esclaves dans cette région-là. Donc tout ça, ça marque des gens, quoi. Et aujourd'hui, ils sont traités, on est dans une situation d'apartheid en Roumanie. Voilà, on a les mêmes chiffres que ceux qu'on avait en Afrique du Sud. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai vu. Évidemment, moi, juste un exemple. Moi, j'habitais dans un bidonville pendant 5 ans. Tous les dimanches, il y avait des bagarres. À coups de couteau, à coups de bouteille. Et bien là, j'ai jamais vu une bagarre. J'ai pas vu de gens qui se... Oh, il y a des mecs qui se bousculaient. Mais des gens qui se battaient à coups de couteau. Moi, j'ai vu des couteaux rentrer dans les ventres et tout ça, des bouteilles sur la tête. Là, j'ai rien vu de tout ça. Donc, voilà. Vraiment, j'ai pas évité les bagarres non plus, un certain nombre de choses. Voilà. J'essaye de... Après, il y a des problèmes comme l'alcoolisme qu'il y a dans toutes les populations, ou les problèmes avec les femmes battues, etc., qu'il y a dans, exactement comme dans toutes les autres populations. Ça ne change pas. À partir de... Évidemment... dans la même situation de précarité et de pauvreté, je pense.
Bonsoir. Je voulais savoir si ce documentaire, vous l'avez montré, vous venez de le réaliser là ou vous l'avez déjà montré à d'autres, d'autres personnes ici, des institutions, en Roumanie aussi?
Non, elle a pas, la Roumanie, ça m'intéresse. Enfin, je n'ai pas eu de contact avec la Roumanie. Il est sorti il y a déjà 2 ans, je pense. Il est sorti il y a 2 ans. Ben, il est passé sur France O. Je précise O, parce que je comprends deux. Il a été montré dans des festivals. Les gens, tous les gens qui sont dedans l'ont vu. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est un film culte par rapport à eux. Ils avaient un autre film culte qui était le film de Tony Gatliff, qui est... comment ça s'appelle déjà? Là, j'ai tout un
Gachodrome.
Gaggio di Lo. D'ailleurs, j'ai été surnommé Gaggio di Lo. Et voilà, donc oui, il a été un peu vu, mais bon, voilà, ça reste dans des réseaux. Il est passé dans des cinémas aussi. Il n'est pas sorti au cinéma, mais il passe dans des cinémas. Et il a été énormément utilisé par les associations de solidarité qui commencent à faire un vrai travail sur le terrain pour essayer de trouver, pour d'abord, dans un premier temps, des choses d'urgence, après pour scolariser les enfants, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait sur le terrain par des gens, des bénévoles. Et puis qui essayent maintenant de trouver des solutions alternatives éventuellement. Il y a des architectes qui travaillent là-dessus, sur les bidonvilles. Enfin, il y a tout un truc qui se met en place, mais la solidarité reste quand même très restreinte.
Mais enfin, moi, j'habite du côté de la Bastille, et il y a, dans le quartier Bastille, deux familles qui habitent là depuis un an, qui dorment dans les cabines téléphoniques, qui sont dans les embrasures de portes, même quand il a fait moins 15, moins 10, ils étaient tout le temps là, y compris des bébés. Et c'est vrai que ce qu'on... Alors moi, je connais la Roumanie et je connais un peu le problème. Et ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont mieux ici que là-bas, c'est vrai. Alors ça, c'est vraiment le fond de la misère.
C'est dingue,
ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, dingue, ouais. En plus. Et c'est vrai. Alors il y a des tziganes riches là-bas. Il y a des villages recouverts d'argent. Mais il y a aussi une grande partie de la population qui vit comme on vit dans les plateaux des Andes, à peu près. C'est-à-dire, on a vu un petit peu des cabanes là qui sont faites en... Enfin, vous les avez vus, mais qui sont faites en terre, en adobé, comme on dit là, vous savez, des briques...
C'est des briques en terre.
Voilà, des briques de torchis, en fait. Et moi, j'ai vu des endroits qui sont beaucoup mieux que ce que c'était avant, et on a de la peine à imaginer ce que c'était avant, en fait. Et ce que j'arrive pas à très bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'a en tête l'actuel gouvernement. Alors, c'est un gros problème, parce que quand même, ça fait beaucoup. Il y a plusieurs millions de tziganes en Roumanie. Je crois à peu près 2, 2,5, quelque chose dans ce coup-là, oui, à peu près. Et donc c'est un problème que de toute façon on doit aborder en Europe. Il n'y a pas d'alternative. Donc et comme ils vont pas arrêter de quitter la Roumanie qui est dans un sale état et qui est pas sorti de l'auberge avant un bon moment. Je ne sais pas si vous avez eu des échos ou si on vous a fait vous a filtré quelques idées sur ce que le gouvernement actuel a comme opinion, à part virer les gens.
Je crois qu'ils n'ont aucune volonté de faire quelque chose. D'ailleurs, au niveau local, ça se voit énormément parce que à chaque fois, il y a eu des choses faites au niveau local. Il y a des choses faites à Saint-Denis, Il faut quand même... Dans le Val-de-Marne, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui ont été faites à Nantes. C'est pas non plus... Mais dans l'ensemble, c'est quoi la position des autorités locales, maire, conseiller général, etc.? C'est de dire, ah ben non, on peut pas s'occuper de ce problème-là. Attendez, vous vous rendez compte, ce problème-là. Voilà, tout de suite, nous, on peut pas. Il faut que ce soit l'État qui le fasse, et systématiquement le même discours. Donc, personne ne veut prendre... Personne, à aucun niveau. Alors, l'Europe a un grand programme d'inclusion des Roms. On ne sait pas où est l'argent. Enfin, on ne sait pas. Alors, c'est peut-être dans les pays de l'Est que ça se passe. Ici, ça n'arrive pas jusque-là, en tout cas. Et simplement, les gens voient uniquement les Roms comme un problème. Voilà, c'est ça. C'est simplement, à partir du moment où on dit, bah, c'est pas possible, on peut pas, eh ben, on peut pas. Simplement. Donc, si chacun à son niveau prenait des responsabilités, ça représente, les Roms, c'est 15 000 personnes en France. On a l'impression qu'ils sont des millions. Il y a 15 000 personnes, c'est rien. C'est-à-dire que si chaque... Alors on dit toujours, ah, mais si on fait quelque chose, il va y avoir un appel. C'est comme pour les sans-papiers, c'est exactement pareil. Voilà. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être faites. Simplement, on voit que c'est uniquement un problème qu'on ne peut pas résoudre. Mais il y a des réactions de maire. Moi, vous savez, par exemple, quelqu'un qui est important, qui, je crois, au gouvernement, François Lamy. Il est ministre de la Ville, c'est ça ? Et ben, ça se passe à Palaiseau, ça. Le premier bienville, c'est Palaiseau. Ils viennent sur le parking. Vous avez vu le tas d'ordures qu'il y a ? Ils refusent d'enlever les ordures. Donc les gens, ils disent, mais les Roms sont dégueulasses. Ça appuie, il y a des rats partout. C'est vrai, il y a des rats. Moi, j'ai vu des rats, c'est y a des colonies de rats tout d'un coup qui sortent. C'est impressionnant. C'est François Lamy, au gouvernement, ministre de la Ville, qui refuse de mettre de l'eau, qui refuse de scolariser les enfants. Voilà la réalité. Voilà, de toute façon, enfin, je ne suis pas déçu de ce gouvernement-là, puisque j'en attendais rien.
Bon, ça dépasse peut-être. Oui, mais bon. Je ne suis pas là pour vous censurer.
Changer de sujet pour. Moi, je suis très curieux du jeune couple, là, qu'on voit surtout vers la fin, à un moment donné, qui est visiblement une histoire un peu particulière.
Le couple mixte.
Ouais, c'est le couple mixte. Et alors d'abord, j'aimerais prendre de leurs nouvelles, et puis si vous pouvez nous en dire un peu
c'est
plus.
C'est incroyable, parce que j'étais en train de penser à un truc, c'est les seuls que j'ai pas revus.
Ah ouais ?
C'est les seuls que j'ai pas revus. J'ai revu tout le monde.
Ils sont à
Orly. Ouais. Eh ben, je ne le savais pas,
ils
tu
sont
vois.
Toujours ensemble.
D'accord. Je ne savais pas. C'est les seuls que...
Ils sont toujours que boss.
Alors, ils sont à Orly sur le village d'insertion, alors. D'accord. Eh ben, je ne savais pas, parce que je n'ai pas été à Orly, j'ai revu à peu près tout le monde. Malheureusement, j'ai pas revu le petit garçon qui est au début, parce qu'il est mort d'un accident de la route, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, Yonout.
Un garçon qui voulait être policier,
voilà.
Médecin, ouais.
Ouais. Et qui était un petit garçon extraordinaire. Mais je pense que des gens comme Marius et Andrea, dont vous nous parlez à l'instant, sont des gens qui peuvent... Marius parle couramment l'anglais, il parle mieux l'anglais que moi. Moi, je ne parle pas très bien non plus. Mais Marius parle l'anglais courant, quoi.
Vous connaissez leur histoire, comment ils se sont rencontrés, comment cette histoire a commencé ou...
Bah, oui, je connais un peu leur histoire.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bah, simplement, alors, les parents d'Andrea ont refusé totalement. Refus total. Mais il n'y a pas qu'elle, qu'Andrea, qui est... La jeune fille, à un moment, Christina, qui parle qu'on lui a enlevé son bébé, ça. Et bon, elle, c'est pas... Et les parents non plus. Il y a des mélanges, quand même, qui se font. Bah, et c'est jamais tout à fait désespéré, ces histoires-là. Et il y a des histoires d'amour. Et ce qui se passe, c'est que des deux côtés de la famille, on refuse le mariage. Et un jour débarquent les parents de Marius. Le père et la mère. Et on sent... Parce que j'avais de très bons rapports avec eux, parce que des gens d'abord charmants, très hospitaliers, j'allais boire le café chez eux et tout ça. Et petit à petit, le père et la mère, voyant le bébé qui était... Moi, j'étais fou de lui, quoi. C'est vraiment un môme extraordinaire. Il était tout le temps souriant. Je sais pas comment il faisait. Tout le temps. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a ? Il lui donne quelque chose le matin pour qu'il soit comme ça. Il est dopé ou quoi ? Et donc, petit à petit, voyant l'enfant, la mère d'ailleurs, à un moment, est dans la baraque en train de balayer dehors pendant qu'elle le change, là. Et petit à petit, bah, ça a marché, quoi. Ils ont accepté le truc. Mais les parents d'Andrea, ça m'étonnerait. Enfin, je n'ai pas eu de, comme je les ai pas revus, mais je vais aller les revoir parce que c'est vraiment des gens que j'avais envie de revoir effectivement parce que c'est des attaches et que les gens sont super hospitaliers simplement quoi. Ils ont été très hospitaliers là en Roumanie, mais simplement dans le bidonville, ils étaient vraiment hospitaliers quoi. Bon, c'est un peu compliqué d'ailleurs parce qu'on se dit voilà, eux nous reçoivent et voilà.
Oui. D'autres réactions ou questions? Oui.
Et c'est simplement une remarque et quelque part un remerciement à José Vieira parce qu'il y a quelques années, vous avez participé à un séminaire à la BDIC, à Nanterre, l'Université Nanterre, Bibliothèque d'Histoire Contemporaine. Et grâce à ce film qui est fait, que vous avez fait avec un retour des Portugais à leur village natal, il a surgi un projet qui est sur l'Algérie. Et c'est pour cela qu'à Laurent Maff aussi, j'ai rencontré. Et c'était justement un projet d'entretien des gens qui sont retournés en Algérie après avoir vécu au bidonville de Nanterre. Et aujourd'hui, je tenais à venir parce que c'était un petit peu la synthèse de quelque chose qui a duré 4 ans et que bientôt tout le monde va connaître.
Alors, il y a un travail dans le film aussi sur les portraits, donc sur des images presque fixes. Moi, ça m'a beaucoup intéressée. Parce que je crois que ça permet aussi d'introduire beaucoup d'autres personnages qui ne parlent pas, mais qui sont présents par leur regard. Donc, je ne sais pas comment c'est venu cette idée.
Ouais, ben ça m'a été imposé. C'est un peu différent. Non pas pour le producteur, parce que je n'avais pas de producteur. J'ai travaillé sans producteur pratiquement pendant tout le tournage. Ça m'a été imposé par les habitants du bidonville, on va dire. Parce qu'il n'y a pas que des Roms aussi. Simplement, moi, j'avais une caméra qui est assez petite. Donc si on ratait une très grosse caméra, tout le monde croyait que c'est un appareil photo. Mais ça, je connais, parce que j'étais dans d'autres pays où les gens croient que c'est un appareil photo. Et donc, les gens posaient devant la caméra. Et je dis, sur tous les mots, alors là, bon, il y avait des moments où je leur disais, les gars, ça suffit, quoi. Mais on posait devant la caméra. Et les gens, des fois, le jour de la fête, par exemple de Pâques, c'est une grande fête, c'est des orthodoxes. Ils prennent la religion du pays où ils sont. Là, en l'occurrence, en Roumanie, c'est des orthodoxes. Et donc, les gens... Ouais, absolument. Et donc les gens se changeaient pour. Et tout de suite, dès le premier, quand je suis allé à la première fois, il me semble, oui, à la première fois avec Marie-Hélène, les bombes se sont figées devant la caméra. Et je dis, voilà, ça va se passer comme ça. Moi, je vais leur ramener des photos. C'est-à-dire, je vais prendre des images dans ma vidéo et je leur ramène les photos. Et c'est comme ça que le rapport s'établit en vérité. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai connu 2-3 familles au début, et après, tout le monde voulait faire tirer le portrait. Donc c'est ça qui m'a fait que ça marche. Dans Refus du gros plan, non, pas le gros plan, on voit pas les vêtements qu'on a, etc. Je comprends très vite que non, ça marche pas. Je me fais engueuler par une nana à un moment donné, je dis, oh bon, d'accord, je fais plus de gros plans, alors je les fais pour moi, je vous les offre plus. Et puis, petit à petit, ça c'était vraiment au début, donc j'ai fait des milliers de tirages pour eux, et après, petit à petit, c'est pas au début, ils s'équipent pas, mais petit à petit, ils vont s'équiper de téléviseurs. Il va y avoir des générateurs sur le bidonville. Les gens vont pouvoir regarder la télévision. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et donc, à partir de ce moment-là, je fais un premier DVD que je tire à 40 exemplaires pour leur donner, qui était un peu le résumé des premiers mois que je tournais avec eux. Et puis, je leur donne. Et puis, tout le monde me réclame des DVD pour une fête, un anniversaire, un machin, tout ça. Puis, on s'amuse ensemble. Et ça devient une espèce de jeu. Et je fais une collection de DVD. Et à un moment donné, j'ai l'impression que je passe dans le bidonville, j'entends des trucs que j'ai fait. Et je dis, bon, j'ai fait une télé locale, quoi. Voilà. Sur DVD. Donc, voilà, c'est un peu... Et ça, pour moi, ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. là. Parce que du coup, il y avait un véritable échange. C'est-à-dire que je n'étais pas là juste pour prendre. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais c'est parfois pas évident du tout de tourner dans des endroits comme ça, parce qu'on ne se sent pas très très bien non plus. Et puis il y a des gens qui vous le disent aussi parfois, qui vous disent, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens gagner du fric sur notre misère, tu as vu dans quelle misère on est, et ça je le comprends, parce que j'y étais à un moment donné, donc je comprends parfaitement cette façon de voir la, de me voir à moi, quoi, avec une caméra qui vaut peut-être 3000 euros seulement, c'est une somme colossale, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai essayé de faire ce rapport-là, et ce qui fait que avec des échanges, quoi, ce qui fait que du coup je filmais des choses auxquelles j'avais pas forcément accès, des fêtes, etc. Les gens venaient me chercher ou me prévenaient à l'avance, etc. Et ça c'était vraiment c'était un grand plaisir de faire ça avec eux.
Dans votre approche de la vie au Bidonville, vous êtes très proches l'un et l'autre, parce que Laurent aussi s'est beaucoup attaché aux solidarités, à la fête, aux soins aux enfants aussi, qui sont très présents, ces regards pleins de tendresse vers les enfants. Donc je trouve que vous avez une sensibilité qui est très proche, même si vos moyens d'expression divergent beaucoup.
Il y a effectivement un élément qui est important. Peut-être la différence, c'est que le film travaille sur une actualité. Donc en fait, on est en mesure de produire justement ces images. Et là où on s'aperçoit, en fait, en travaillant sur les années 50-60, c'est des générations qui sont arrivées et qui ne voulaient pas se faire remarquer. En fait, les hommes venaient pour travailler, on les laissait dans des conditions de précarité, parce qu'on ne souhaitait pas qu'elles s'implantent de manière pérenne sur certains territoires de la région parisienne. Mais c'est aussi des personnes qui voulaient pas faire de vagues. Et forcément, l'État français ne s'est pas fait prier pour, et la mémoire aussi, pour oublier une partie de ces générations. Et ces générations qui sont arrivées dans les années 50-60 sont des générations oubliées en partie. La démarche, de faire une bande dessinée, d'exploiter des sources, elle n'existe que parce qu'au départ, il y a un certain nombre de sources à exploiter, il y a un certain nombre de témoins qui ont produit des choses, et les archives, que ce soit photos ou vidéos, c'est vrai qu'à un moment, elles nous rappellent que dans les années 50, dans les années 60, il y a eu aussi une génération un peu... qu'on a complètement gommé, et je trouve que l'intérêt d'une bande dessinée ou d'une forme en fait qui travaille à partir de qui travaille sur le passé, c'est justement de mettre en lumière ou de remettre en lumière ceci.
Faire une petite remarque par rapport à ça. Je reviens à ce que je disais il y a je sais pas combien de temps, mais un des trucs qui m'avait beaucoup agacé, et ça rejoint un peu, c'était le fait que je trouvais dans les images toujours des plans sur la misère. On vient dans les bidonvilles pour tirer des plans sur la misère, pour dire, regardez, il n'y a que de la boue, etc. Et donc, je trouve que c'est quand même essentiel de revenir à ce qui était la vie des gens, en fait. Ce qui étaient les gens, et je pense que c'est ce qui a été fait dans la bande dessinée, et ce qui m'a beaucoup... Ça m'a presque fait rire tout à l'heure quand tu disais que l'histoire était très simple, que c'est juste une femme qui arrive dans un truc et se dit... Mon Dieu, suis-je tombé? Mais ça, c'est général. Ma mère n'en revenait pas. C'était un truc. Elle a jamais pardonné ça à mon père. Elle a jamais pardonné ça. Mais j'ai eu de nombre de femmes qui n'ont jamais pardonné. Pas forcément d'ailleurs en bidonville. Ça peut être travailler sur un village d'Auvergne en ce moment. C'est pareil. C'est-à-dire, c'était des espèces de baraques en ruine et c'était pareil. Donc, ma mère a passé les 5 ans qu'on a passé bidonville. À prendre la tête à mon père pour lui dire, il faut qu'on se tire d'ici, quoi. Il faut qu'on se tire d'ici. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Et les enfants, ils n'étaient pas... Bon, voilà. Moi, j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Mes sœurs, elles avaient 13, 14 ans. Pour elles, c'était terrible parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, etc. Donc, il n'y a pas la même... Elles n'ont pas du tout la même vision que moi du bidonville.
Mais ça, c'est vrai qu'il y a des visions très, très divergentes en fonction des témoignages des personnes qui ont souhaité ardemment être relogés dans des cités de transit à la fin du bidonville ou au moment d'en partir, et d'autres qui au contraire l'ont regretté parce qu'elles trouvaient que la vie en cité de transit, qui était de sorte de camp pour le coup, consistait à C'était une sorte de zone d'attente assez indéterminée avant une accession hypothétique en HLM dans quelques années.
On peut voir que c'est des zones qui sont gardées par l'armée. Enfin, c'est cité de transit. Ouais. Enfin, il y a une barrière, il y a un gardien qui est un militaire. Enfin, c'est ce qui apparaît dans la.
Oui, c'est un ancien de la coloniale. Après,
voilà, un ancien, on voit qu'il a. Et il faut présenter ses papiers à l'entrée. Enfin, on rentre pas comme dans un moulin, c'est le cas.
Mais par contre, ce qui était assez frappant, c'est que. Dans les témoignages audio, même dans les témoignages de vive voix, les personnes qui vivaient dans le bidonville, à l'époque, il y avait du travail. C'est ça qui changeait aussi beaucoup de choses, en dehors du rapport à l'Algérie. Mais les gens pouvaient payer un loyer, en fait. Et elles ne comprenaient pas pourquoi, en pouvant payer un loyer, on les laissait dans le bidonville. Et les personnes qui vivaient dans le bidonville étaient vues comme des personnes arriérées. C'est-à-dire qu'on disait, si elles vivent dans le bidonville, mais c'est parce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas loger dans un logement parce qu'elles ne savent pas, alors que certaines personnes venaient, par exemple, n'étaient pas forcément que algériennes. Dans ce bidonville, il y avait aussi des Marocaines. Et une personne que j'ai rencontrée vivait à Casa et avait l'eau courante. Vous voyez, donc il y avait... On disait en fait que finalement, s'ils vivaient dans ces bidonvilles, c'est parce qu'ils le souhaitaient, parce qu'ils le voulaient. Et au moment où certaines familles voulaient s'en émanciper, partir du bidonville, on leur retournait comme argument au niveau de l'administration qu'ils ne savaient pas vivre dans les logements qui étaient construits, alors qu'ils les construisaient, et que les gens... Et en fait, il y avait toujours une stratégie qui était de lier la personne à un groupe en disant mais les gens comme vous, vous allez salir l'appartement, vous allez le dégrader, etc. Et il y avait toujours une sorte de c'est pas une incompréhension, mais de rhétorique comme ça qui visait à éluder à chaque fois le souhait de telle ou telle famille, à rejeter dans un futur improbable un relogement, par exemple le
système. On avait peur d'une mixité aussi de l'habitat. Ouais.
Alors on avait peur d'une mixité même parce qu'il y avait la loi des 20% qui consistait à l'époque à dire qu'au-delà d'un certain seuil, en fait, on ne pourrait plus assimiler une population étrangère dans un environnement de banlieue ou de ville nouvelle. Mais c'est vrai que c'était... Il y avait les personnes qui se retrouvaient dans le bidonville, elles étaient aussi sans... elles n'avaient pas vraiment d'horizon, en fait. Et c'est ça qui est l'horizon qui se présentait, il était chaque fois très, très hypothétique. Et c'est ce que l'on voit dans... Il y a un témoignage dans la frise, là, donc, qu'on a numérisé, qu'on a absolument tenu à garder. On ne comprend pas forcément très bien la personne. Mais cette personne, elle venait des Aurès, je crois que sa femme était décédée, et puis ils étaient un nombre assez important d'enfants à la maison. Et quand on l'écoute, ça doit être, je ne sais plus, autour du 20e ou 21e point sur lequel on peut cliquer, et cette personne est complètement désespérée et ne voit pas du tout d'issue, en fait, à ce que peut être son avenir. Et on se rend compte aussi que... Il ne faut pas tomber dans le misérabilisme, mais que cette situation, elle a été particulièrement dure pour les parents qui avaient à gérer à la fois le travail, à la fois l'arrivée dans des endroits où ils n'avaient plus de repères, et à gérer également une famille. Et pour la petite histoire, lors d'une rencontre qu'on a fait au Théâtre des Amandiers, en fait, il y a deux bonhommes qui sont venus. Moi, j'étais en train de dédicacer. Et ils venaient pour voir Monique Hervault, qui est donc la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils me disaient, mais je ne sais pas si on va très bien, si elle va se rappeler de nous. Et je leur ai dit, mais de toute façon, elle a une mémoire d'éléphant, donc c'est sûr, elle se rappellera de vous, de votre famille, si elle vous a vu. Et donc, forcément, elle les a reconnus. Forcément, ils ont énormément discuté. Et il se trouve qu'en fait, ces deux personnes-là, c'était deux enfants... du bonhomme qu'on avait utilisé sur la bande sonore. Donc on a pu leur redonner l'enregistrement de leur père à l'époque. Et on a tout un tas de petites histoires. Enfin, moi je trouve que sur le projet du livre, en fait, c'est que cette histoire-là, elle a dépassé le livre. On est très content d'avoir fait le webdoc à la suite. On est très content aussi d'avoir pu faire des choses avec Monique, avec des anciens du bidonville, et de pouvoir aussi voir que des liens se retissent, que des personnes se retrouvent ou retrouvent des choses qui ont à voir avec leur propre histoire et qu'ils ne pensaient pas forcément exister. Ça a été vraiment à chaque fois des surprises et des choses. C'était des soirées chaque fois réussies, quoi. À chaque fois, on avait personne qui revenait, comme une dame par exemple qui est venue, et après j'arrête. Mais sur le dernier livre de. Donc, le livre de Monique Hervault a été réédité. Ça s'appelle Nanterre en guerre d'Algérie. Et donc, lors d'une rencontre qu'on a fait un soir avec Monique dans une médiathèque, donc là, il y a une photo. Comme ceci, donc c'est un couple, photo qui a été prise au moment de l'indépendance algérienne, donc avec tous les drapeaux sortis au sein du bidonville. Et il se trouve qu'il y avait dans la salle une dame, qui est la dame qui est sur, qui est au dos du livre, qui était venue avec sa famille, donc avec ses filles, dont la fille qui était à l'époque dans son ventre, et elle est venue également avec la robe qu'elle portait le jour de cette photo. Et donc forcément, on se dit qu'à un moment, on travaille sur une mémoire qui est vivante. Il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas la déformer. Il faut se laisser les libertés pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir raconter une histoire qui n'est, pour ma part, qu'une fiction. Mais qu'à la fin, ce qui donne du crédit à l'histoire, c'est que les gens qui ont vécu cette histoire d'une manière ou d'une autre puissent y retrouver des ambiances, et voir des fois puissent retrouver d'autres personnes. Ouais, c'est ça qui a été le fil directeur du livre.
Je crois qu'il se fait tard, on va peut-être clore, à moins que... non, vous ayez... Bon, je voulais juste vous dire que j'ai préparé ce débat en lisant un excellent livre d'Henriette Asséo qui s'appelle « Les Tziganes, une destinée européenne », donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai lu aussi, donc 17 octobre 61, c'est un texte de Jean-Luc Enaudi qui est une des personnes qui a fait le plus pour que la mémoire de cette journée ne soit pas oubliée. Et puis « L'Atlas des Tziganes » chez Autrement, qui est vraiment bien à jour sur toute la situation contemporaine, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Voilà. On arrête là ? Ben, je vous remercie tous.